et sœurs, nous nous retrouvons pour célébrer la messe chrismale, moment important et central de la vie du diocèse chaque année. Elle marque notre entrée dans les jours saints, le triduum pascal qui nous plonge au cœur du mystère de la foi, au cœur de la charité et de la vie nouvelle qui jaillit du cœur transpercé du Christ sur la croix. N'oublions jamais que par sa mort et sa résurrection, le Christ transforme la condition humaine en nous incorporant à une nouvelle existence réconciliée avec le Père et entre nous. Jésus n'est pas seulement un modèle qui inspire des actions généreuses. L'Église n'est pas une ONG, pour reprendre les propos du pape François, et la vie chrétienne ne se réduit pas à un art de bien vivre, pour reprendre là des propos du pape Saint Jean-Paul II. Jésus est Fils de Dieu, vrai homme, mort et ressuscité pour nous, et pour nous rétablir dans la communion avec le Père et entre nous, pour nous participants de la vie divine. L'Église est une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. En vivant les jours saints, nous sommes appelés à renouveler en nous la vie divine, à accueillir de manière plus profonde la charité de Dieu, pour nous laisser transformer. La Semaine Sainte nous rappelle que le mode de croissance de l'Église est celui du grain de sénevé, la plus petite graine qui est jetée en terre pour devenir un arbre immense qui accueille tous les oiseaux du ciel. Jésus a choisi le chemin de la souffrance et de l'humilité pour sauver le monde. C'est la méthode de Dieu, dit le pape Benoît XVI. Souvent, nous pouvons être tentés par l'impatience, le découragement. On voudrait qu'il y ait toujours de grands arbres, toujours plus vigoureux. La méthode de Dieu est celle du grain de sénevé. Il faut sans cesse oser l'humilité du petit grain, en laissant Dieu choisir quand et comment il grandira. Toutes les grandes choses commencent toujours par un petit grain. Les grandes réalités commencent toujours dans l'humilité. Nous devons accepter que le mystère de l'Église soit à la fois le grand arbre et le grain minuscule. Dans l'histoire du salut, c'est toujours en même temps vendredi saint et dimanche de Pâques. La Semaine Sainte nous ramène à l'école de Jésus qui donne sa vie. Elle nous invite à lui ressembler. Je vais bénir dans quelques instants les huiles saintes, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades, le Saint-Crème. Elle nous est ainsi rappelé que nous avons un absolu besoin de la consolation de Dieu, de sa tendresse et de sa force. Nous ne pouvons rien sans lui, sans le don gratuit de son amour. Nous ne pouvons rien sans l'action de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous rend forts dans le combat de la vie chrétienne, c'est lui qui nous rend féconds et qui rend féconds nos souffrances et nos vulnérabilités. C'est lui qui peut faire de nous des missionnaires audacieux, joyeux et rayonnants. Je vais invoquer la bénédiction de Dieu sur ces huiles. Je vais invoquer la venue de l'Esprit Saint. Prions ensemble pour que l'Esprit Saint soit répandu aussi sur tous les baptisés du diocèse, sur chacun d'entre nous. C'est pour cela que la prière à l'Esprit-Saint est au cœur de notre synode, car aucune motivation, aucune organisation ou stratégie ou débat n'est utile ni suffisant si le feu de l'Esprit-Saint ne brûle dans nos cœurs. Invoquons une fois de plus l'Esprit-Saint, qu'il vienne nous consoler, nous fortifier, qu'il renouvelle nos communautés, leur donne l'impulsion pour une audacieuse sortie missionnaire. Mais croyons-nous encore que Dieu agit dans les cœurs? Croyons-nous à la puissance de l'Évangile? Permettez-moi de vous citer saint Paul. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestent pour que notre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que notre diocèse, la vie de nos diocèses repose sur la puissance de Dieu. Les prêtres vont renouveler la promesse de leur ordination. Je vais aussi inviter les diacres à renouveler leur adhésion au don de leur ordination. Vous allez prier pour nous, à demander au Seigneur que nous correspondions davantage au mystère de notre sacerdoce. J'ai relu il y a quelques jours dans le directoire sur la vie et le ministère des évêques ce qu'on en attend d'un évêque. Alors je me suis dit que cela valait aussi pour les prêtres. Car les prêtres sont associés au ministère de l'évêque. Ils sont coopérateurs de l'évêque. Et peut-être aussi pour me rappeler que je ne suis pas seul à porter la charge, que nous sommes ensemble. Alors là, ce qui est dit de l'évêque, que vous pouvez appliquer au prêtre. L'évêque, le prêtre, doit manifester par sa vie et par son ministère la paternité de Dieu, la bonté, la sollicitude, la miséricorde, la douceur, l'autorité du Christ qui est venu pour donner sa vie et pour faire de tous les hommes une seule famille réconciliée dans l'amour du Père. L'évêque, le prêtre, doit manifester aussi la vitalité de l'Esprit-Saint qui anime l'Église et la soutient dans sa faiblesse humaine. Alors plus je médite cela, plus je mesure que c'est impossible, enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les prêtres, que c'est impossible sans la grâce de Dieu, sans l'œuvre de miséricorde en nous. Bien sûr, nous devons travailler avec détermination à ce qu'avec le temps, nous correspondions plus et mieux au don de Dieu. Nous n'avons jamais fini de grandir dans notre sacerdoce ou dans notre diaconat. Nous devons sans cesse grandir dans la charité pastorale par laquelle nous imitons le Christ dans le don de soi et dans son service. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais le don de nous-mêmes qui manifeste l'amour du Christ pour son troupeau. La charité pastorale doit déterminer notre façon de penser, d'agir, notre mode de relation aux gens. Nous n'avons jamais fini d'avancer sur ce chemin. Si on se croit arrivé, on se trompe. Mais si on n'avance plus, on ne fait plus avancer personne. Alors, frères et sœurs, priez pour nous, qu'avec les années, nous correspondions davantage à l'appel de Dieu. Nous ne pouvons pas le vivre sans vous. Nous ne pouvons pas avancer sur le chemin sans vous. Si vous ne marchez pas à la suite du Christ avec nous si nous ne marchons pas ensemble? Alors j'ai été personnellement très touché par des figures de frères prêtres qui ont rejoint le ciel ces derniers mois. Alors je pense au père Roger Guyard, au père René Tirant, au père Jean Lusseau, mais aussi au père Joseph Dufay, au père Longuet, au père Jean-Marie Grassin. J'ai rencontré le père Guyard quelques jours avant sa mort. Et durant l'entretien, il m'a dit « Vous avez ouvert un synode, c'est courageux, mais je vous en remercie, ça m'a fait du bien. » Puis il m'a dit du bien sur les uns et les autres. Il ne m'a dit que du bien sur les gens. Et au moment de le quitter, il m'a répété plusieurs fois, on n'est jamais assez bon. Il tapait de sa main, là. Il dit, père, on n'est jamais assez bon. Je dis, oui, j'ai bien compris. Non, père, on n'est jamais assez bon. Le père Tirant est resté plus de 50 ans dans la même paroisse. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais il connaissait tout le monde. Et la première fois que je lui ai rendu visite, j'ai vu simplement qu'il aimait les paroissiens, qu'il aimait les gens. Le père Lusseau, les gens de la cathédrale l'ont bien connu, est décédé il y a quelques semaines. Il est mort en allant célébrer l'Eucharistie. Il a passé 40 ans au service du collège de l'Absalette et 25 ans au service de la cathédrale. Un homme discret, silencieux. Au fond, lui et ses frères, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Mais pour le père Lusseau, nous prenons aujourd'hui la mesure de la fécondité de sa vie. Une fidélité magnifique. Après sa mort, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup de gens sont venus déposer des lumignons devant son confessionnal. À travers eux et bien d'autres, le Seigneur nous parle. Ce n'étaient pas des leaders, mais des pères. Ils n'ont pas eu de succès, mais ont été féconds. En réalité, le message qu'ils nous transmettent, c'est l'humilité, la bonté, l'humble et joyeuse fidélité. Et nous devons sans cesse chercher avec humilité à ressembler au bon pasteur qui donne sa vie pour les brebis, qu'en tout temps, en toute situation, nos vies se déroulent sous le regard du Seigneur crucifié, conscient de notre propre néant, de notre propre condition de pécheur, qui a reçu le don de la grâce de Dieu en étant appelé par lui. Que notre joie ne soit pas de faire, que notre joie ne soit pas de faire ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce que nous réussissons le mieux, mais de faire ce que Dieu attend de nous, là où nous sommes, dans l'état où nous sommes. Ça, c'est un propos du cardinal André Van Troyes. Il a écrit ça quand il était malade à l'hôpital. Alors prions par l'intercession de nos frères, qui sont déjà auprès du Père, que nous soient donnés des prêtres pour le service de notre diocèse. Prions de manière plus déterminée. À ce propos, avec tous les prêtres du diocèse qui le pourront, nous irons ensemble, dans quelques semaines, le 23 avril, faire un pèlerinage sur la tombe du père Hamel, dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Prions ensemble pour demander au Seigneur, par l'intercession du père Hamel, martyr. Et un de nos frères nous a dit tout à l'heure qu'il avait osé penser qu'il aimerait bien être martyr, de temps en temps. Donc nous allons demander par l'intercession du Père Hamel des vocations sacerdotales de prêtre pour notre diocèse. Donc je vous invite tous à vous joindre à nous par la prière. À notre société, est traversé, confronté à des enjeux fondamentaux. Je pense au débat sur la fin de vie, à la révision des lois sur la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui. Le danger, c'est de traiter toutes ces questions comme s'il n'existait pas d'enjeu. Il ne s'agit pas seulement d'un débat d'opinion. Il est important que nous participions à ces débats. Nous devons inviter nos contemporains à s'interroger sur la finalité de la vie, sur son sens. Mais cela suppose que nous-mêmes, nous nous formions sur ces sujets, que nous-mêmes, nous ne nous contentions pas d'émotions. Quelle que soit l'issue de ce que la loi autorisera ou non, nous avons à dire la vérité sur l'homme et sur la vie. Mais cela ne peut se faire que dans la miséricorde et dans l'amour. Soyez prêts à tout moment à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ça, c'est la première lettre de Saint Pierre. Donc, je pense aussi aux migrants et aux réfugiés. Et je voudrais remercier tous les chrétiens du diocèse qui s'investissent dans l'accueil des migrants. Vous savez, l'Église est lucide sur la complexité de la question migratoire. Nous ne pouvons pas cependant échapper à la parole de Dieu. Jésus s'est identifié à l'étranger, à celui qui est sans abri. Nous devons apprendre sans cesse à poser un regard neuf sur celui qui vient d'ailleurs, voir en lui une personne et non pas un cas à résoudre, un don pour l'avenir. Tout émigré et réfugié qui frappe à ma porte est une occasion de rencontrer Jésus. Mais je pense aussi aux innombrables situations de précarité économique, de fragilité, de solitude qui touchent tant de personnes autour de nous. Nous devons aller plus loin dans le service de la charité. Nous risquons de ne pas plaire à tout le monde en disant que la vie ne nous appartient pas, que le désir d'enfant ne fait pas un droit à l'enfant, que nous ne pouvons pas ne pas accueillir l'étranger et que nous faut envisager de vivre de manière plus sobre. Mais sur ces sujets, vous le savez, les déclarations ne suffisent pas. L'essentiel, c'est d'abord la manière dont nous nous comportons. Nous ne pouvons plus nous appuyer sur les lois de la société pour vivre en chrétien, mais sur notre attachement au Christ. Ce qui change la société, ce n'est pas d'abord les déclarations, mais la manière dont vivent les chrétiens. Mais jusqu'à quel point sommes-nous attachés au Christ? Jusqu'à quel point croyons-nous que Dieu agit dans le monde? Jusqu'à quel point croyons-nous qu'il est le sauveur du monde? Jusqu'à quel point sommes-nous disposés à nous livrer à l'action de l'Esprit-Saint, à nous oublier nous-mêmes? Donc, il y a un an, lors de la messe chrismale, je vous annonçais la décision d'ouvrir un synode sur une question: quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui? Le synode est ouvert. Et je vous remercie d'être entré dans cette démarche. Je remercie les 3040 personnes, c'était avant-hier, je crois, qui se sont insérés dans les 477 équipes synodales. Et je remercie les 280 personnes qui seront appelées et qui accepteront de participer aux assemblées synodales. Donc je vous invite à prier pour ceux qui vont devoir récolter et rassembler toutes les remontées des équipes. Et je me permets d'insister très rapidement sur deux dimensions. La première: nous voulons nous mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint afin de discerner sur la manière de nous mettre en sortie missionnaire pour aller vers les hommes et les femmes de notre temps. Il ne s'agit pas de savoir comment survivre, mais comment sortir. Discerner quel est le chemin du Seigneur. Avoir le courage ou la simplicité de rejoindre tous ceux qui ont besoin de la lumière de l'Évangile, plus exactement de laisser sortir Jésus. Il nous faut avoir un regard d'espérance. Le synode n'a pas pour but de dire tout ce qui ne va pas, parce que cela est sans fin et mortifère, mais de chercher avec joie où Dieu nous attend. Et puis la seconde insistance, et ça sera ma conclusion, c'est la charité. La charité doit présider à toutes nos équipes synodales, dans nos propositions, dans nos relations. Et permettez-moi de citer un texte que j'ai trouvé dans le bréviaire d'un certain Isaac de l'Étoile, mais que vous connaissez peut-être pas, qui dit « Lorsqu'en mon frère, je perçois quelque chose d'incorrigible, par suite de difficultés ou d'infirmités physiques ou morales, pourquoi ne pas le supporter avec patience? Pourquoi ne pas l'en consoler de tout cœur? Serait-ce qu'elle me manque, cette charité qui supporte tout, qui est patiente pour soutenir, indulgente pour aimer? La charité, c'est pour elle que tout doit se faire ou ne pas se faire. Changer ou ne pas changer. C'est là le principe par lequel il convient que tout soit dirigé. Alors maintenant, supplions l'Esprit Saint. Nous allons reprendre la prière à l'Esprit Saint pour le synode.